Il est 8h08 sur Radio Panique et je suis en compagnie dans ces promesses de l'aube d'Anaïs Moreau. Bienvenue Anaïs, bonjour à toi.
Bonjour.
Et de Priscilla... Priscilla, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Priscilla Cristillo.
Oui, c'est ça.
Et qui est la nouvelle chargée des relations publiques du théâtre La Balsamine. Et je suis ravie de t'accueillir aussi.
Ah bah, moi aussi.
Voilà, et donc chaque année, depuis quelques années, en tout cas depuis que les matinales existent sur Radio Panique, on a l'habitude d'inviter le théâtre La Balsamine pour présenter sa saison. Et donc, bienvenue pour cette nouvelle saison de La Balsamine avec de nombreux spectacles qui ont été des reports de la saison dernière, et donc tout le meilleur qu'on souhaite pour cette nouvelle saison, c'est qu'elle se déroule sans report
cette fois-ci. On espère. Il y a quand même des spectacles qui ont été reportés plusieurs fois, mais là on pense qu'on tient un bon filon, et surtout on est super content de pouvoir réouvrir et retrouver le public, les amateurs d'art, de théâtre et de danse, quoi.
Et vous aviez déjà réouvert juste avant les vacances avec déjà de belles représentations,
oui,
et surtout
ça.
Le passage de témoin entre Monica Gomez, donc, qui a terminé son mandat,
oui, c'est ça.
Et la nouvelle directrice, enfin le nouveau duo.
Oui, c'est ça. Donc on a Isabelle Batz et Mathias Varenne qui vont reprendre les rênes là tout doucement. La transition se fait doucement, donc là on est encore avec Monica et Morgan aussi, et au fur et à mesure, ils vont s'installer dans le théâtre, en douceur.
Voilà, c'est le titre d'ailleurs de votre saison. Est-ce que c'est le point, le fil conducteur entre les différents spectacles que vous avez programmés?
Ben oui, c'est ça. Le thème, c'est en douceur. Et en fait, on retrouve beaucoup de douceur dans beaucoup des spectacles qui sont programmés. Et aussi, surtout, le théâtre La Balsamine a toujours mis un point d'honneur à favoriser la recherche artistique, l'expérimentation et tout ça. Et là, on retrouve beaucoup de réflexions humaines, en fait, justement, comme une sorte de conséquence à tout ce qu'on vient de traverser. Et toujours dans la douceur, on recherche à questionner nos relations aux autres, soit notre gestion du deuil, par exemple, comment est-ce qu'on gère nos relations de couple, comment est-ce qu'on gère toute une série de choses qui nous sont arrivées dans la vie. Et c'est ça le thème principal, on va dire, de cette saison.
Et c'est vrai qu'après tout ce qui nous est arrivé cette année et demie, et même déjà avant, on a besoin de ce réon. Se remettre dans un bain de douceur et un peu de watt autour de soi.
Oui, c'est exactement ça.
Pour prendre soin de nous. Et donc, il y a quelques spectacles, dont le spectacle d'Anaïs Moreau, dont on va parler à la suite, qui sont des reports de la saison dernière. Il y a aussi Les Lianes de Françoise Berlanger qui était programmée en février, je pense, et qui a dû être...
Oui, c'est ça. Là, Les Lianes, on est sur une programmation en novembre maintenant.
Oui, et y a aussi Audrey Luce qui avait, vous aviez programmé une vision de presse, donc on en avait parlé ici à un entretien d'ailleurs qui a été diffusé dans la matinale ici du mercredi avec Oriane Vanak. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre spectacle dont tu voudrais nous parler plus spécifiquement?
Ici, je peux parler de comment au début de la saison, peut-être, on a le spectacle d'Héloïse Jadoul, qui est sa deuxième création, qui s'appelle Intérieur. On a aussi toute une série de choses, parce qu'on veut aussi retrouver les personnes dans le théâtre. Donc on a une brocante qui sera le dimanche 19, le samedi 19. Je suis perdue, le 19 septembre en tout cas. Et on aura aussi le jour de la journée sans voiture, le 25, où on organise toute une série de représentations de cirque. Donc il y a de la jonglerie, du contorsionnisme et tout ça, pour essayer aussi un petit peu de retrouver tout le monde autour de nous, parce que c'est surtout ça qui nous a manqué. Et comme tout premier spectacle, comme ouverture de la saison, on a Anaïs Moreau avec Auteur Inconnu.
Eh bien, je propose de passer directement à ça. Auteur inconnu, c'est un spectacle qui est à l'intersection de l'intime et de l'extime, en fait. Et donc, Anaïs, dans ce spectacle, tu racontes, c'est ton histoire, si j'ai bien ouais. compris, d'une nuit du 18 septembre 98. Tu avais 16 ans et tu t'es retrouvée dans une chambre d'hôtel avec un jeune homme séduisant. Et puis, après, ce qui s'est passé n'était pas forcément consenti de ta part. Et quelques années après, tu as souhaité porter plainte.
Et 17 ans après.
17 ans après, donc c'est
quelques années.
C'est quelques années. Et on t'a rembarré en disant que l'auteur était inconnu. C'est d'où le titre.
On va pas dire qu'on m'a rembarré, mais j'ai appris, oui, que l'affaire a été classée sans suite. Après, la formulation est un peu bizarre. On m'a expliqué que ça veut pas dire que l'affaire est mise dans le placard. Justement, elle peut être réouvrable. Mais c'est vrai que quand tu reçois ça, et en plus, c'est moi qui ai demandé, où en était l'affaire. Quand tu reçois ça, c'est un peu choquant d'entendre ces mots classés sans suite. Mais oui, je raconte tout mon parcours entre le moment où j'ai commencé à vouloir écrire sur ce viol et qu'est-ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire tout ce spectacle, en fait. Je raconte, oui, comment j'en ai fait un spectacle.
Et comment tu es arrivé justement à vouloir à sortir de l'intime et de quelque chose dont on a du mal à parler en général et de le faire sous forme de spectacle.
J'étais dans une formation pour mon spectacle d'avant. Je réfléchissais justement sur la question de comment aborder la violence et la sexualité au théâtre, sur le plateau. C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé dans mes créations. Et je me disais comment aborder, on parle de cette notion de catharsis, de fragilité, autant pour l'acteur que pour le spectateur, mais aller vraiment dans ses tripes, quoi, entre guillemets. Et puis, donc je tournais autour, et puis il y avait cette question du désir artistique aussi qui s'étiolait un peu dans ma création ou ma création précédente. Je cherchais, je lisais sur la mort, le suicide, j'étais bon, qu'est-ce que je cherche. Et j'en suis arrivée à vouloir aborder l'intime, sachant que paradoxalement, dès que je vois un spectacle qui traite de l'intime, ça me gêne. Je me dis, mais pourquoi ? On a des personnages, on a du théâtre, autant transformer les choses au lieu d'être dans la réalité. Mais j'ai voulu, en fait, me confronter un peu à cette question. Et donc, voilà, d'où m'est venue l'idée d'écrire sur ce viol. J'ai écrit, un an et demi après avoir porté plainte. Donc, ça a été plein de questionnements qui m'ont amené à ça. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais Anaïs, pourquoi tu veux écrire sur le viol? Ça n'a rien à voir avec ta création. Et heureusement, il y a quelques personnes qui ont compris, qui m'ont dit, mais bien sûr, ça a à voir. Donc, je me suis aussi battue pour dire si je veux écrire sur le viol. Mais c'était déjà tabou à l'époque, quoi, parce qu'il n'y avait pas MeToo encore à cette époque-là. Donc, on n'en parlait pas du tout, quoi. Et donc, c'était qu'est-ce qu'elle fout, quoi.
C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est mis sur sur le devant de la scène, et justement on a tendance, les femmes qui souhaitent en parler, à les rembarrer,
il y a encore cette il y a la pudeur, il y a l'écoute de l'autre. C'est compliqué quand on parle de choses qui sont pas très drôles, c'est toujours compliqué à oser en parler.
Et comment tu as procédé justement de l'écriture, donc qui est quelque chose aussi de très intime, écrire quand on écrit, à comment s'est fait le passage au spectacle justement? Est-ce que du coup tu as rencontré d'autres femmes, des associations, tu as été
ça a été un peu un effet boule de neige. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui écrit tous les jours, j'ai écrit sur cette première parole, et puis il y a 60 pages qui sont apparues, et au début, j'étais seule, et puis au fur et à mesure, j'ai voulu approfondir, j'ai voulu chercher à en faire une forme théâtrale, mais aussi parce que je me suis rendu compte que ça me suffisait pas de rester seule avec cette histoire, et que moi, étant actrice, j'avais besoin aussi d'aller ailleurs que simplement dans un simple témoignage, mais d'utiliser mes outils, de ce que j'aime, et donc au fur et à mesure, au début on a commencé avec de la en lecture, et puis après j'ai fait appel au comédien qui est actuellement avec moi sur scène, Renaud Garnier-Fourniguet, qui au début faisait de la musique, était musicien, et puis au fur et à mesure l'équipe s'est créée, Je me suis dit, tiens, oui, j'aimerais bien. Ah oui, à un moment donné, j'ai fait des montages radio, j'ai fait de la radio, j'ai monté mon spectacle en radio. Et donc, j'ai créé, en fait, ma mise en scène toute seule avec mon ordi, avec des idées. Et puis, après, je me suis dit, mince, ça serait bien d'aller plus loin, Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu une collaboratrice artistique, Judith Ribardière, avec qui on a pas mal travaillé à trois, et puis un compositeur sonore qui est arrivé, et puis l'équipe s'est construite, mais après, par rapport aux questions, j'ai fait des rencontres, mais je me suis pas tout de suite associative, je veux dire. Mais ça n'a pas été ma priorité. Je sentais que j'avais d'abord besoin, moi, de savoir quel était ce spectacle. Avant de pouvoir en parler aux autres, Mais j'avais besoin d'aboutir ma création pour pouvoir en parler.
Et c'est aussi dans le dossier de presse, tu évoques le fait d'une petite histoire singulière, et donc c'est comment aussi on passe de quelque chose qui est singulier, qui nous appartient, à quelque chose qu'on peut montrer à l'extérieur et peut-être partager avec d'autres petites histoires singulières pour en faire une grande.
Alors ça m'est apparu parce que tous les 6 mois on faisait des résidences d'écriture, de plateau. Et ça m'est apparu à chaque représentation, chaque fin de résidence, où je me disais, mais c'est fou en fait ce que ça génère chez le spectateur. Du coup, ce spectacle amène à discuter, amène à parler, à parler ensemble. Je suis plus seule avec cette histoire. Et du coup, parce que la violence est partout, elle est tout le temps, de différentes manières, et pour tout le monde, je pense. Et on la gère de différentes manières. Et donc, à chaque fois que je sortais d'une représentation, je me suis dit, mais c'est en fait, il y a quelque chose d'assez important. Parce que c'est un générateur de paroles, de discussions sur des questions taboues, Et le fait que ça soit ma première fois, à 16 ans, là je me suis dit, oui, je crois que j'ai envie d'en parler aussi aux jeunes, quoi. Et de savoir, eux, comment ils la vivent, leur sexualité aujourd'hui, quoi. Parce qu'effectivement, on n'est pas la même génération. Nous, on n'avait pas les écrans, on n'avait pas Internet. Donc, il y a aussi une autre sorte, une autre forme de violence qui se rejoint. Mais je crois qu'on a besoin d'en discuter, quoi. Enfin, voilà. J'ai hâte d'avoir des échanges avec les jeunes, quoi.
Et du coup, c'est prévu, ça, durant les représentations, là, maintenant là...
Ouais, voilà, je me suis ouvert vers les associations. Donc, ouais, tous les soirs, il y aura un débat. Et puis, il y a des scolaires qui sont prévus. Enfin, on a réussi à avoir une subvention École Bruxelles... voilà, pour faire un travail avec des classes d'adolescents, des écoles. Et chaque soir, il y aura un débat. Avec des psychologues, le planning, Praxis, qui aide à l'insertion des jeunes récidivistes. Je ne sais plus de tête.
Oui, c'est ça. On aura aussi il y aura des psychologues, il y aura le CAB et il y aura aussi...
Le centre d'appui bruxellois.
Oui, voilà, le centre d'appui bruxellois. Et il y aura aussi des policiers qui sont habitués à recevoir des personnes en audition. C'est vraiment chaque spectacle avec... il y aura aussi des magistrats, pardon. Et pour chaque spectacle, c'est vraiment le point de vue à travers la profession respectives des personnes, quoi. Et au-delà d'un débat, c'est aussi beaucoup un échange et comment on partage nos expériences respectives, en fait.
Et ce qui est super chouette, c'est qu'on les a vus, ils sont venus à la première pro parce qu'on devait jouer en mars dernier. Et donc après, on a eu le temps avec Noémie qui fait la médiation culturelle, on a eu le temps de rencontrer chaque personne, chaque association après le spectacle. Et ça, ça a été hyper intéressant aussi parce que du coup, ils nous ont ouvert. Enfin, ils ont répondu aussi à des questions du spectacle et puis ça amène d'autres discussions, quoi.
Et justement, c'est cette façon de rendre votre spectacle. De le transformer entre guillemets en outil pédagogique, on va dire. Est-ce que tu y avais réfléchi déjà avant? Enfin,
alors,
bien, c'était.
Ouais, je pense qu'il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi. Je sais que Monica, depuis le début, en fait, elle voulait des débats après le spectacle. Elle voulait, elle disait oui, ça va être compliqué d'avoir des subventions en termes artistiques, enfin, des subventions de théâtre. Je me suis battue, on a fait deux dossiers CAP, mais on n'a pas eu. Mais du coup, moi, j'étais vraiment... Mais non, je suis actrice, j'ai besoin, en fait, de... Enfin, non, c'est un spectacle, quoi, de théâtre. Après, l'outil pédagogique, oui, ça fait partie de... Ben, normal, on parle de la société, de la vie, ça sera... Enfin, je sais pas. Et du coup, j'étais un peu réticente avec ce côté... Oui, spectacle associatif, pédagogique. Et maintenant, j'ai plus de problème avec ça. Donc, c'est peut-être le trajet de l'intime à l'extime, je pense.
Qui fait qu'effectivement, c'est utile. Et ce trajet, justement, il est intéressant ces dernières années, avec le MeToo et tout ça. On a quand même entendu beaucoup de comédiennes exprimer ces situations, mais c'était toujours plus ou moins dans le cadre professionnel qu'elles avaient vécu, qu'elles dénonçaient ces situations de violence, de harcèlement, de viol. Ici, c'est quelque chose qui t'est arrivé dans ton intimité, dans ton histoire, à toi, en dehors du milieu, on va dire. Et donc, utiliser... Ce spectacle, est-ce que tu te sens investi d'une mission de faire avancer la réflexion
Non.
Ou bien tu le fais juste parce que toi, tu t'en sens, c'est le besoin que tu as?
Non, c'est juste que... en fait, c'est juste les conséquences. Enfin, j'ai voilà, moi, le départ. Enfin, ouais, voilà. Il y avait vraiment un questionnement autour de cette notion de comment aborder la fragilité sur scène. Et après, voilà, ça a fait effet boule de neige. Mais je ne me sens pas représentante de quoi que ce soit. Et surtout que bah, j'ai écrit ce texte en 2016. Donc il n'y avait pas de, vraiment de bouquin, de référence, de... voilà, sur ce sujet à l'époque. Et bah, quand il y a eu la vague MeToo, c'était génial, j'ouvrais mon Facebook et j'avais tout, j'avais plus besoin de chercher. Mais voilà, après, bah, tant mieux si ça sert, quoi. Et c'est la... mais je crois que je suis une citoyenne parmi d'autres, enfin je, comment dire, voilà, je suis actrice, créatrice, je ne sais pas quoi dire.
Et qu'il n'y a pas plus de raison de te demander à toi que à quelqu'un d'autre.
Bah, je crois que tout le monde a, enfin, tout le monde, justement, c'est pour ça que ces échanges sont importants. Tout le monde a sa place pour en parler, en fait. Enfin, je pars de cette expérience parmi d'autres, quoi. Mais c'est tellement, tellement, tellement courant que voilà.
C'est ça qui est terrible aussi, c'est que c'est tellement courant.
Ben oui.
Oui, c'est compliqué aussi de pouvoir. Est-ce que ça met aussi le spectateur justement dans une situation justement compliquée par rapport à ce que tu disais quand tu voyais un spectacle qui traitait de l'intime, tu disais mais ça doit rester de l'intime.
Est-ce qu'il y a du malaise?
Est-ce qu'ils ont ressenti ce malaise de se dire ben zut là c'est sa vie qu'elle nous raconte.
Et... Bah justement, enfin, ce qui est drôle, c'est que c'est autant pour le spectateur que pour moi. Ça a été un long trajet, en fait, justement, de trouver la bonne place sur le plateau. Et justement, de ne pas que le spectateur se sente voyeuriste ou que moi, je me sente pas bien, quoi. Et justement, enfin... c'est ça qui est bon, bah voilà, les choses prennent du temps et on a abouti à quelque chose où vraiment je me sens juste l'actrice voilà qui joue avec mon partenaire et c'est voilà, c'est l'actrice, ça s'appelle Anaïs, quoi, et oui, c'est moi, mais c'est ça, je pense. Il y a Nicolas Lusson qui m'a aidé à finir l'écriture scénique et à aller sur le plateau. Et je pense qu'il m'a aidé vraiment, c'est de vouloir absolument faire des scènes, des dialogues. Et du coup, on est dans le jeu et on arrive à être dans l'humour. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autodérision. Voilà, on passe par plein de choses, quoi. Mais c'est parce qu'on est et on utilise les outils du théâtre justement pour pas être mal à l'aise, quoi.
Et est-ce que c'est quelque chose, j'imagine qu'au-delà de cette situation-là, ça doit arriver plein de temps justement qu'on joue en tant que comédienne, comédien, qu'on joue des choses qui nous sont vraiment arrivées et donc qu'on doit se mettre cette distance-là.
Ouais, alors c'est plus facile quand c'est le texte d'un autre, que c'est pas son histoire. Mais du coup, voilà, le fait de l'écrire sur le papier, de penser au spectateur, de mettre des points d'exclamation, des virgules, des « Ah, merde !» voilà, de permet tout ça, en fait. La distance, quoi. Et d'en faire une fiction, quoi. c'est voilà, c'est mon histoire, mais c'est une fiction. Enfin, c'est des scènes de théâtre.
Je sais pas si tu veux rajouter l'une ou l'autre chose. C'est effectivement à la fois interviewer la comédienne qui parle de son spectacle, mais qui parle aussi de son histoire. C'est aussi, ça met aussi dans une position, comme je disais, pas de malaise, mais de se dire où on va, qui est-ce qu'on est en train d'interviewer ? Est-ce que c'est la comédienne qui parle de son spectacle ? Est-ce que c'est la personne qui parle de sa vie et de ce qui...
Ouais, est... mais je parle pas de ma vie, je parle d'un viol que j'ai subi, qui a été ma première fois, et il s'est passé quelque chose. Enfin, il y a eu un traumatisme et il y a eu une perdition. Voilà. Et ça, il y a eu quelque chose de très clair aussi qui s'est fait en travaillant. C'est que je ne suis pas. C'est un fait. C'est un événement qui m'est arrivé. Voilà. Ce n'est pas moi, ma vie. Enfin, je crois qu'il faut faire la part des choses, quoi. Je ne parle pas de. Enfin, voilà. Justement, il faut se détacher de ce malaise, parce que sinon on s'en sort pas, quoi. Sinon on parlera jamais, on creusera jamais cette question des violences, de la sexualité, de pourquoi on en arrive là, quoi. D'où ça vient? C'est une responsabilité collective, c'est pas ma responsabilité. Seulement. Donc, oui, il y a un malaise, mais il nous appartient, je crois, ce malaise.
Effectivement, c'est ça qui est compliqué à... Enfin, qui est compliqué. Parce qu'on parle de choses qui ont pu aussi nous arriver et que dans l'intention, c'est évoquer quelque chose qui est souvent enfoui aussi. Et comment reparler de ça sans réveiller toute une série de...
Ouais, chacun a son... Là, je ne peux pas répondre pour tout le monde, hein. Mais je crois que c'est le problème, c'est qu'on banalise tout ça.
Toutes les violences et...
Enfin, on se dit, oui, bon, ça va. C'est bon. Voilà. Moi, ça, c'est... Après, je peux pas parler à la place des autres. Moi, ça... Je pense que ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, d'en parler, de porter plainte. Après, chacun a son chemin. Enfin, il faut trouver chacun sa manière de se sentir bien avec ce qu'on a vécu, quoi. Mais en tout cas, effectivement, la question de la parole et de l'écoute de l'autre, enfin, c'est assez énorme.
Et justement, est-ce que tu as l'impression que... Enfin, tu dis, on banalise ça, c'est quoi qu'on banalise? C'est les...
Bah, c'est parce que...
Le fait ou la souffrance que ça engendre?
Est-ce qu'on se rend compte... On ne se rend pas forcément compte de la souffrance que ça engendre tout de suite. Je crois qu'il faut du temps. Mais oui, je dis, on banalise... Pourquoi j'ai porté plainte 17 ans après, en fait? Parce que j'ai sûrement banalisé le fait que j'ai été violée et que ça a dû effectivement avoir des répercussions dans mon rapport aux hommes, dans la sexualité. Voilà, la question du déni... elle est parfois nécessaire et parfois elle nous empêche aussi d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est assez complexe.
Oui, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça qu'on a du mal en tant que femme de porter plainte, justement, parce que souvent on se dit, mais non, en fait, ce que j'ai vécu, c'est pas vraiment un viol, je suis quand même un peu responsable. Et donc, ce n'est qu'après un cheminement qu'on se dit, bah, si, c'était ça, c'était exactement ça qui s'est passé.
Ouais. Bah, y a un gros travail d'éducation, ouais. Enfin, oui, c'est aussi pour ça que je dis que j'ai hâte de rencontrer le public adolescent aussi, parce que, ouais, je me dis, pourquoi on n'en parle pas, quoi? Pourquoi, enfin, je me dis, ouais, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça dans le programme scolaire, si l'éducation ne se fait pas à la maison, je sais pas. J'ai vu un documentaire il y a pas longtemps, justement, sur la sexualité des adolescents. Je me suis dit, on est vraiment dans une autre génération et c'est assez choquant, quoi.
Tu veux dire plus violente, plus...
Ouais, enfin, plus violente, je sais pas, mais aussi violente, en fait. Mmh. Avec d'autres médias, quoi, mais... C'est étrange parce qu'à la fois ils sont dans un rapport très cru du fait que l'accès aux images, à la pornographie et tout ça, à Internet, et à la fois justement cette question de la douceur des relations très très chaotique, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui m'avait choqué, en tout cas, c'est qu'ils se donnent des défis on peut dire un peu pornographiques, quoi. Tu dis waouh, dès la sixième, enfin la sixième en France, je crois que c'est
la première.
Tu dis ah ouais, d'accord.
Oui, que c'est effectivement.
donc ouais, j'ai perdu le fil, mais
de la violence aussi et de la question aussi de ce à quoi on consent, en fait, et de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment et dans quel type de relation on est. Et oui.
Oui, et puis, ouais. Et puis, ouais, ça nous touche tous, toutes, à tout âge, quoi. Enfin, c'est vrai que, j'évoque, il y a une scène avec ma mère, pas jouée par ma mère, mais dans le spectacle, et... du coup, oui, ça questionne aussi sur cette question de la pudeur aussi de nos générations précédentes par rapport à la sexualité. Et de la pudeur aussi qu'il y a encore aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y a des... Oui. On est dans un rapport à l'image aujourd'hui est très cru, mais c'est pas pour autant qu'on en parle. Et c'est ce qu'ils disaient les adolescents dans ce documentaire là que j'ai vu. Ils disaient ouais, mais nous, nos profs, ils nous parlent de la sexualité, de comment on fait un bébé. On a 12 ans, mais nous, on est vraiment au-delà de ça, quoi. On n'en est plus là, quoi. Donc, il y a un moment donné aussi, les vieux, faut qu'ils se réveillent, quoi. Qu'il faut aussi qu'ils s'intéressent, qu'ils s'informent, qu'ils comprennent un peu comment ça se passe pour nous aujourd'hui, quoi. Et donc, il y a aussi, une responsabilité aussi de nos parents, de nos profs, d'aller dedans, quoi. D'oser un peu, quoi. Parce que si on reste toujours sur ce malaise, on va pas s'en sortir. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça va bouger, quoi.
Ben, c'est vrai que quand il y a eu, enfin il y a quelques années, quand il y a eu le MeToo aussi, enfin quand ça a débuté, ici, il y a des femmes aussi qui disaient « Oh, mais une main au cul, c'est pas très grave, moi j'aime encore bien ça », ou bien des choses comme ça. Et donc, il faut aussi se rendre compte que tout le monde... enfin, comment éduquer les jeunes si on est dans l'acceptation de certaines choses qui ne sont pas acceptables, en fait. De se dire, j'ai l'impression, en tout cas... sein de génération, enfin 40, 50 ans, qu'on a été éduqué à accepter plein de choses qui en réalité ne sont pas acceptables. Et donc, comment éduquer les jeunes alors que nous-mêmes, on n'est pas au clair avec.
Bah ouais, c'est ça. Il y a une responsabilité collective, quoi. Enfin, faut. Moi, c'est toujours ça qui m'a porté, c'est essayer de comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Au-delà de, oui, c'est un connard, mais pourquoi en fait ? Pourquoi cette personne a pété un câble et tout d'un coup m'a violé ? Pourquoi ? À quoi c'est lié? Voilà.
Oui, effectivement, ça pose plein de questions sur comment collectivement on fait face à ça et pas juste de manière individuelle ou... De me dire que c'est effectivement qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui fait que, comme tu dis, telle personne a pété ce câble et qu'est-ce qui, dans la société, amène les hommes à péter ces câbles.
Et qu'est-ce qui fait qu'on accepte, on accepte ces violences et qu'elles se reproduisent, quoi.
Et qu'on ne les dénonce pas systématiquement au moment même ou juste après, et qu'on enfouit ça.
Ouais.
Ben, le temps a passé, en fait. Quelles sont les dates auxquelles on peut voir le spectacle, du coup ?
Ben, on peut voir le spectacle du 16 au 22 avec une relâche le 19. Il y a des représentations scolaires qui sont déjà complètes et le 22, c'est complet aussi le soir. Donc il reste en fait du 16 au 18.
Et on peut se procurer les places sans...
On peut se les procurer soit via notre site internet balsamine.be, soit par mail à réservation@balsamine.be.
Ok. Et est-ce que vous avez toujours votre joli petit abonnement ?
Malheureusement, cette année, non. Comme on a eu beaucoup de reports et on se retrouve avec beaucoup plus de spectacles que les années précédentes, on s'est dit que peut-être on allait plutôt faire une exception et... Et oui, on encourage quand même les gens à venir voir les spectacles, surtout qu'il y a des possibilités d'avoir l'article 27 ou alors il y a des réductions pour les Scarbécois aussi. Il y a toujours moyen d'avoir un tarif réduit quand c'est nécessaire. Quoi.
Ok. Et est-ce qu'il y a l'un ou l'autre élément qu'il faudrait rajouter ?
Eh bien, que les portes du théâtre sont grandes ouvertes, que nous, comme on fonctionne sur des toutes petites jauges, on n'est pas tenu d'appliquer le pass sanitaire. Donc,
chouette.
Voilà, ce sera à jauge réduite, évidemment, du coup, avec le masque, mais les portes sont grandes ouvertes pour tout le monde.
Et juste pour préciser, vous avez aussi souvent une petite programmation pour les plus jeunes.
Oui. Les Balles à Toiles, effectivement, ça continue cette année. On commence la première le 27 octobre.
Okay.
Tout ça se retrouve sur le site internet. Ouais.
Ok. Ben, Anaïs et Tiffany, merci beaucoup.
Merci.
Et merci à toi.
Voilà.
C'est beaucoup d'émotions.
Merci beaucoup merci d'être venu et d'avoir parlé de la programmation de la saison et de ce spectacle Auteur inconnu. Donc, à voir. Donc, juste la semaine prochaine.
Tout à fait. C'est ça.